RCF.
Il est 7h30, l'heure du journal, présenté par Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Emmanuel Macron en visite au Brésil.
Au menu des discussions, la forêt amazonienne, mais aussi un sujet qui fâche, le Mercosur, le marché commun du Sud. On en parle dans un instant. Dans ce journal également, un rapport choc qui a été publié hier par une rapporteure des Nations Unies. Cette dernière accuse Israël d'avoir commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. Précision dans quelques minutes. Et puis une proposition de loi qui arrive cette semaine à l'Assemblée pour stopper la discrimination capillaire. De quoi s'agit-il exactement? Réponse en fin de journal.
Emmanuel Macron poursuit sa visite au Brésil, visite vouée à marquer le rapprochement avec le géant latino-américain.
Hier, les présidents français et brésiliens ont annoncé un programme d'aide pour la forêt amazonienne. Les précisions de Jean Duquesne.
Oui, il s'agit d'un programme pour lever 1 milliard d'euros d'investissement vert pour l'Amazonie brésilienne et française côté Guyane. Objectif combiné environnement et développement économique. L'idée est aussi de placer les peuples autochtones au cœur des prises de décision. La feuille de route commune est présentée alors que le Brésil est cette année le président du G20, mais aussi dans la perspective de la COP25. Près de Belém, l'un des grands centres urbains du bassin amazonien, les deux chefs d'État ont aussi visité une micro-entreprise de production de cacao, censée illustrer que le développement économique et la protection de l'environnement peuvent aller de pair. La plus grande forêt tropicale du monde joue un rôle vital contre le réchauffement climatique via l'absorption des émissions de carbone. La déforestation dans l'Amazonie brésilienne a diminué de moitié en 2023. Un succès pour le président Lula, qui a promis de stopper le phénomène d'ici 2030.
Emmanuel Macron qui compte rester 3 jours au Brésil.
3 jours, le temps nécessaire pour renouer les liens franco-brésiliens, distendus après le passage du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le temps aussi d'évoquer les nombreux sujets qui unissent le Brésil et la France, mais aussi ceux qui fâchent. Le Mercosur en fera certainement partie, alors que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine avait fait l'objet d'une levée de bouclier de la part des agriculteurs. Le dossier est plus que sensible, comme l'explique Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de « Géopolitique de l'Amérique latine ».
Le Mercosur, c'est un sujet de déception du point de vue du Brésil, puisque Lula, lui, souhaitait ardemment un accord avant la fin de l'année 2023. Il voulait une négociation plus favorable aux intérêts brésiliens et des pays du Mercosur. Et tout ça a capoté et Lula critique vertement, finalement, et en particulier Emmanuel Macron, sur le fait que considère que cet accord était en fait protectionniste pour les Européens et était surtout fait pour empêcher justement la progression des exportations latino-américaine en Europe, et aussi à contester le fait qu'au nom de l'environnement, l'Europe imposait des normes discriminatoires pour le commerce latino-américain sur notre continent. Et donc, du coup, le fait que Emmanuel Macron, finalement, était un peu le chef d'État européen qui a refusé d'aller au bout de cette négociation, bien sûr, c'est un sujet de distanciation.
Notez qu'il s'agit du premier voyage officiel d'un président français au Brésil depuis 11 ans. Nous sommes dans un moment franco-brésilien, s'est félicité l'Élysée.
On reste à l'étranger avec ce rapport choc publié hier.
Celui réalisé par une rapporteure spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens. Elle accuse Israël d'avoir commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. 3 éléments en particulier sont pointés, Laurette Duranel.
Oui, 3 éléments qui sont constitutifs du génocide, c'est-à-dire des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, selon la rapporteure Francesca Albanese, mandatée par les 47 États du Conseil des droits de l'homme. À défaut de pouvoir se rendre directement dans l'enclave palestinienne en raison des propos antisémites qu'elle aurait tenus, selon Israël, l'avocate italienne s'est basée sur des données provenant d'organisations présentes à Gaza et sur des entretiens avec des experts et des civils. Dans son rapport, elle pointe notamment les décès résultant d'actions directes ou de négligence par une famine imposée d'une part et par l'usage disproportionné des explosifs d'autre part. La rapporteure mentionne aussi les dommages physiques et psychologiques causés notamment par la torture ou les violences sexuelles. Enfin, elle dénonce la dégradation intentionnelle des conditions de vie sur place qui peuvent amener, selon elle, à la destruction du groupe.
L'État hébreu a réagi, il voit dans ce rapport une inversion, je cite, obscène de la réalité et affirme qu'il fait partie d'une campagne visant à saper l'établissement même de l'État juif. En France, Gabriel Attal réunit ce matin l'ensemble du gouvernement à Matignon pour un séminaire aux allures de conseil des ministres consacré au travail, au moment où les dépenses sociales comme celles de l'assurance chômage sont dans le viseur de l'exécutif pour combler le déficit. Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité avec toujours un fil rouge, celui du travail. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre hier en citant la réforme de l'assurance chômage. Le Parlement, lui, s'apprête à adopter définitivement une loi pour le bien vieillir avec un ultime vote au Sénat. La proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie arrive au bout d'un long chemin parlementaire. Après l'Assemblée nationale la semaine passée, le Sénat devrait l'approuver une dernière fois sans difficulté.
La proposition d'écriture constitutionnelle examinée par l'Assemblée de Corse aujourd'hui et demain.
Ce projet qui prévoit la reconnaissance d'un statut d'autonomie de l'île au sein de la République est le fruit d'un accord trouvé entre le gouvernement et des élus corses négocié début mars. Gérald Darmanin et les élus insulaires dont Gilles Simeoni, président autonomiste du Conseil exécutif de Corse, ont acté le premier alinéa de cette écriture qui tient compte pour la Corse des intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne, à sa communauté historique, linguistique, culturelle. Analyse d'André Fazi, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse.
Il reste énormément d'incertitudes. Ce qui est certain, c'est que les équilibres démocratiques ont profondément changé en Corse avec un mouvement nationaliste qui est le plus élevé d'Europe en termes de pourcentage, à près de 68% des voix aux dernières élections régionales. Donc les équilibres ont beaucoup changé. Il y a eu des mobilisations violentes qui ont servi d'accélérateur. Et bon, le gouvernement en a tiré les conséquences avec cette offre politique. Il n'empêche que par rapport aux demandes initiales des nationalistes, on a une proposition de M. Darmanin qui reste très timide, qui en fait conditionne toute intervention en matière législative et réglementaire à une habilitation préalable du Parlement ou du gouvernement, ce qui signifie que le pouvoir politique national conserverait un contrôle, qu'on peut dire quasi total, sur la future production normative corse.
Après consultation de l'Assemblée de Corse, c'est le président de la République qui engagera, quand il le voudra, la réforme constitutionnelle.
Une autre proposition, une proposition de loi, cette fois, arrive cette semaine à l'Assemblée.
Une loi visant à reconnaître et sanctionner la discrimination capillaire, loi portée par Olivier Servat, député Lyotte. Face aux réflexions, moqueries, vexations, pressions de la part des employeurs et des collègues, faire de la France le pays qui peut légiférer contre ces discriminations liées à la chevelure est un objectif. C'est l'ambition donc de cette proposition de loi transpartisane qui est cependant contestée. Le texte a franchi une première étape, c'était mercredi dernier lors de son examen par les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Aline Tacite, experte des cheveux bouclés texturés, créatrice de boucles d'ébène et membre du collectif Libérons nos cheveux.
C'est une loi qui est très importante parce qu'elle permet de protéger les personnes qui en sont victimes, parce que là, on parle d'atteinte à l'estime de soi, à la santé. Je dirais à ces personnes que ça n'enlève rien au droit, ça le précise. En revanche, ça met en évidence une réalité qui touche des millions de personnes et qui n'est pas reconnue également. Donc ça permet de légiférer, de donner une réalité à cela. Et ça permet aussi de casser enfin, en tout cas un début d'avancée pour casser les stéréotypes qui sont liés à ces types de cheveux-là.
Au chapitre économie jour J pour la prise de contrôle de casino par Daniel Kretinsky et ses alliés, épilogue d'un long feuilleton et premier jour d'un grand défi, le distributeur casino dirigé pendant 20 ans par Jean-Charles Naouri va passer entre les mains donc de ses repreneurs emmenés par donc Daniel Kretinsky et la nouvelle équipe aura fort à faire pour le relancer. L'an passé, les catastrophes climatiques en France ont coûté un peu plus de 6 milliards d'euros aux assureurs, c'est ce que révèle la Fédération du secteur ce matin. Il y a eu beaucoup de phénomènes extrêmes en 2023, c'est ce qu'explique Florence Lutzmann, la présidente de France Assureurs. Elle cite notamment 15 phénomènes venteux, 14 inondations avec à chaque fois plus de 15 communes qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Les tempêtes Kiaran et Domingos qui ont touché le Nord-Ouest sont en partie responsables donc de cette augmentation des coûts. Pardon. Et puis on termine par un mot de sport avec la victoire hier de la France en foot contre le Chili, 3-2.
qui ne fait pas oublier la déconvenue face à l'Allemagne il y a quelques jours. Bah oui, c'est triste. Bon, écoutez, on va quand même s'en remettre et on va continuer à suivre l'actualité. Avec vous, Lucie Rispal, un grand merci d'avoir été encore ce matin fidèle au poste pour votre journal. À retrouver sur le site internet des radios RCF, rcf.fr.